Pourquoi ça capte pas là? Ah, ça y est.
Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé
Label de maturité.
Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être has-been.
Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire.
Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des quinca et plus dans notre société.
Oh, monde moderne et cruel, sans pitié. Pardon, je m'emballe.
Et aux milliards de questions qui se posent à mi-parcours.
Aïe, 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 ça va faire mal.
Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule...
Les quinquas sont-ils devenus écolos?
Alors cette année, il faudrait quand même envoyer quelqu'un sur la Terre, ça fait 200 ans qu'on n'y a pas été.
Pourquoi faire?
On voit ce qu'on peut faire,
on peut rien faire.
Dis donc, tu pourrais pas nous dire où ils en étaient quand t'es rentré de la Terre?
Quand on est parti, c'était le tout début de l'ère industrielle.
C'est quoi ça?
C'est la compétition, l'écriture, la production en masse d'objets qui servent à rien, les guerres, le nucléaire, la destruction de la nature, les grandes maladies sans remède, la préhistoire, quoi.
Dans ce film La Belle Verte, la réalisatrice Colline Serrault pointait déjà en 1996 avec dérision les dérives humaines qui consument notre planète à petit feu. Accusée par les plus jeunes d'avoir prôné la croissance à tout va et bouffé la Terre entière, la génération des baby-boomers n'a rien à envier à la génération X qui s'est montrée plutôt attentiste. Une fois ce constat dressé, la jeune génération pourrait bien à son tour montrer quelques signes de faiblesse, niveau écologique et protection de l'environnement. Les aînés sont-ils dans l'intervalle devenus plus écolos? C'est toute la question.
Oui, bon, c'est quoi l'idée? On va pas tous faire des pulls avec nos cheveux non plus, hein?
Sans aller jusque-là, rappelons quand même à chacun que le jour de dépassement des ressources fixé au 29 décembre en 1970, c'est quelque peu raccourci pour prendre effet au 2 août en 2023.
Ça va, on est large.
Pas vraiment, non. Et je te conseille d'ailleurs de lire les rapports du GIEC. Bien sûr, personne ne niera que l'action politique est au cœur des enjeux environnementaux, mais si l'on en croit les résultats des votes aux dernières élections européennes en 2019, les plus de 50 ans ont manifestement du chemin à faire. Il n'était que 10% à choisir écologie des Verts. On peut toutefois concéder à la jeune génération une conscience plus élargie, plus globale concernant l'environnement, au point que l'éco-anxiété toucherait 88% des 18-24 ans, contre 67% des 45-64 ans. Ajoutons également que lorsque le changement climatique reste en tête de leurs préoccupations, les plus âgés, eux, se montrent nettement moins inquiets.
Ouais, bon, c'est bon, demain j'arrête de manger, je m'éclaire à la bougie, je me chauffe à la bouilloire, quoi. Autant me laisser mourir.
Dis donc, sarcasme, t'en fais pas un peu trop, là? En même temps, il faut bien admettre que la majorité des Français s'accordent peut-être sur la nécessité de faire attention à l'environnement, mais 55% ne veut pas renoncer au plaisir de la vie. Et si les gestes écolos pratiqués par les plus de 50 ans donnent lieu à un sentiment d'autosatisfaction, comme indiqué dans une étude de l'ADEME, d'autres données pointent quelques paradoxes qui valent aussi pour les plus jeunes. Ces derniers ont beau faire du covoiturage et privilégier les transports en commun, ils prennent aussi l'avion. Un reportage France Info en 2021 mentionne qu'entre 2015 et 2016, 80% des passagers avaient moins de 55 ans. Et si les moins de 25 ans achètent leurs vêtements en seconde main, elles consomment aussi la fast fashion.
Oui, bah faut peut-être se demander si nos comportements écolos sont pas un tout petit peu rattrapés par les impératifs financiers, là.
Je ne nie pas que ça pèse dans la balance, mais selon un rapport du Crédoc, 20% des 18-24 ans affirment que consommer est avant tout un plaisir. Et c'est 8 points de plus que la moyenne des Français. Pas si simple donc de rompre avec nos comportements consuméristes. Alors oui, les plus de 50 ans s'autocongratulent de leur action sur l'environnement. Et ils sont en effet 93% à trier leurs déchets, 61% à éteindre leurs appareils électriques en veille, ou 62% à consommer local. Mais combien savent réellement dans quelle poubelle se jette un Kleenex usagé?
Je sais ça, c'est dans la bleue, c'est ça? Hein? J'ai gagné?
Mauvaise réponse.
T'es sûre?
Certaine, ça ne se recycle pas, donc tu le mets dans la noire. Difficile d'affirmer donc qu'une génération serait plus écolo qu'une autre, espérons simplement qu'elle se complète. Alors les quinquas sont-ils plus investis? Sommes-nous de bons écolos ou en sommes-nous de nos comportements? C'est d'abord dans la rue que j'ai tenté de mesurer notre degré d'implication avant d'interroger Rémi Houdguiri, sociologue et directeur général de Sociovision.
Bonjour madame, je fais un petit micro-trottoir sur l'écologie. Est-ce que vous vous sentez écolo vous?
Non.
Pas du tout.
Pas du tout. Si vous regardez partout, tout le monde s'en fout alors...
Oui, on essaye.
Oui, je suis écolo.
Bah, oui, je pense que je fais attention un peu. Mais bon, je suis pas militant, quoi.
Oui, assez.
Pas du tout.
Bah oui, beaucoup.
Non, pas trop.
Et c'est quoi les petits gestes que vous faites, vous, au quotidien?
Bah, le tri des déchets.
Pas mettre par terre dans la rue.
Là où j'habite, on a un container, mais c'est tout mélangé, là.
C'est le tri, déjà, des ordures. Et puis, écolo, dans quoi? Je sais pas.
Je fais aussi attention à la lumière, avec tout ce qu'on a, les dégâts, les inondations, la déforestation, donc j'ai commencé à faire attention.
J'achète un minimum pour pas jeter, j'économise un peu tout. Puis voilà, hein, je prends le train.
Je trie les déchets, j'économise l'eau, j'économise l'électricité.
Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui en matière d'écologie ou d'environnement?
le nucléaire. Il faut arrêter d'utiliser le nucléaire parce que moi j'ai travaillé au sein. Il y a beaucoup de CO2.
Je pense un peu comme tout le monde. Le réchauffement climatique, tout ça, on voit que les saisons, eh ben, il n'y a plus vraiment de saisons. On ne sait pas comment ça va finir. Quoi.
Peut-être l'électricité quand même, les sources d'énergie. Ouais.
Ah, tellement de choses. Cette planète qu'on détruit par tous les pesticides, par tout ce qui existe.
Là. Est-ce que vous pensez que les plus jeunes sont plus sensibles, en tout cas plus actifs en termes d'écologie que les plus anciens?
Ça, c'est bien possible.
Pas certaine.
Je crois que la jeunesse est plus responsable que les aînés.
Moi, je pense pas. Parce que bon, les jeunes, ils sont très connectés. Ils pensent mais qu'ils le sont, mais bon, avec les ordinateurs, portables, tout ça, c'est ce qui pollue le plus.
J'ai l'impression, oui, que les jeunes sont plus concernés et puis plus avertis aussi.
C'est pas qu'on se sent pas concerné, mais bon, je pense que les jeunes, c'est leur avenir quand même. Hein.
C'est pas pareil. Il y avait moins de monde sur Terre, il y avait moins de pesticides, il y avait moins d'industrie. Il faut toujours trouver un responsable, on est tous responsables. On nous a offert la possibilité aussi d'être consommateurs. On nous a créé des besoins, on s'est tous jetés dedans. Maintenant, il faut prendre conscience que la vie est différente.
On peut faire un petit quiz juste pour voir si vous êtes un bon écolo quand même.
Allez, vite.
Est-ce que vous avez une voiture?
J'ai une voiture, 3 motos, enfin voilà. La voiture, elle est hybride.
Oui, elle est essence. Électrique, ça me pose un problème, l'électrique. C'est par rapport aux batteries, par rapport aux métaux rares qu'il faut aller chercher à l'autre bout du monde.
Oui, une essence.
Oui, hybride.
Est-ce que vous avez déjà calculé votre empreinte carbone?
Sincèrement, non.
Pas du tout.
Non.
Alors, pas du tout, alors.
Vous êtes dans la rue, vous voyez une canette par terre, vous la ramassez?
Non.
Il y a trop à faire en ville.
Pas forcément.
Et dans la nature?
Oui. Bah, la nature, elle a pas à payer pour l'ignorance des gens, en fait.
Oui, ça, je... Oui.
Ça dépend. Bon, la rue, peut-être pas. C'est sur mon chemin, éventuellement, mais si c'est sur le côté, pas forcément, non.
Oui, ça m'arrive. Surtout en montagne. Faut okay. Trouver des poubelles aussi, en ville. C'est pas toujours facile.
Est-ce que vous avez pris l'avion en 2023?
Non.
Non.
Ah oui, pas mal. 5 ou 6 fois.
Non.
Non.
Dans quelle poubelle vous mettez votre Kleenex usagé? Jaune, bleu ou noir?
Ça doit être la noire.
A priori, j'y vais dans la jaune.
Dans la jaune, je pense. Oui, dans la jaune.
Noir.
C'est la jaune.
Et est-ce que vous éteignez l'eau sous la douche entre deux rinçages?
Oui.
Oui.
Oui. Et même pour mes dents, hein, je coupe l'eau.
Ah oui.
J'éteins, oui.
Alors ça dépend s'il faut que je fasse attention parce que le ballon d'eau chaude n'est pas très grand, j'éteins.
Ah oui, donc c'est vraiment pour avoir de l'eau chaude, c'est pas forcément...
Pas systématiquement pour faire des économies.
Vous avez la clim chez vous?
Non.
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 Je suis pas assez riche pour ça.
Non.
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 Et les vêtements que vous portez là aujourd'hui, ils ont été achetés neufs ou d'occasion?
Ça a dû être neuf. C'est vieux, mais c'est neuf.
C'est neuf.
Je chine.
Moi, j'achète que neuf.
Alors, moi, ils sont neufs.
Et j'essaye les secondes mains, ouais, de plus en plus.
Neuf.
Vous faites gaffe aussi un peu à la provenance de vos vêtements?
Pas du tout.
Ça me plaît, j'achète. Après, ma foi, je regarde. Ma foi, bah tant pis. Hein.
Il y a toujours des made in China. On peut pas y couper, en fait.
Ah oui, maintenant, oui. La Chine, merci. Hein.
Non.
Alors j'essaie d'acheter en France, en tout cas dans des pays où les gens ne sont pas exploités, mais c'est de plus en plus difficile en fait.
Sur une échelle de 1 à 10, vous mettez quelle note en termes d'écologie?
Moi je suis une bonne élève, moi je donne 9,5.
Allez, 6,5.
Je pense avoir la moyenne, pas plus. Hein.
Je me mettrais 7.
3.
Ah ouais, c'est pas bon. Hein.
Non, je le sais, j'en suis conscient.
Et si vous aviez un super pouvoir écolo, ce serait quoi?
Un super pouvoir écolo? Ouh là là, c'est déjà de planter des arbres partout. En ville surtout, parce que je trouve qu'on bétonne trop.
J'arrête la déforestation, le nucléaire.
Peut-être que je mettrais avec ma baguette magique déjà le respect et l'humanité. Je crois que ça commence par là.
Je sais pas si c'est écolo, mais je dirais que j'enlèverais ouais, tous ces politiques qui mettent des bâtons dans les roues.
Faudrait supprimer le plastique et trouver autre chose.
Ce serait de motiver les jeunes générations encore plus.
Voilà, je vois pas trop de choses qui me viennent là.
Le blackout total quoi.
Je vois pas trop non.
Je vous remercie, au revoir.
Bon courage.
Ah ouais, il y a des petites incohérences quand même hein, dans les réponses.
Je ne te le fais pas dire, c'est pour ça que j'ai interrogé le sociologue Rémi Oudguiri. Bonjour Rémi Oudguiri, je suis très heureuse de vous retrouver puisque vous êtes déjà intervenu sur un autre épisode du podcast. Vous êtes sociologue et directeur général de Sociovision, une branche du groupe IFOP dédiée au suivi des tendances à la prospective. Vous avez récemment publié une étude pour TF1 sur les Français et l'environnement, dans laquelle le rapport à l'écologie des quinquas est aussi abordé. Alors avant de faire ce focus, qu'est-ce qui se dégage globalement de cette étude et qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Il faut retenir que d'un côté, les Français sont favorables à la transition écologique. En revanche, dès qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les actes, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins le cas, tout simplement parce qu'il y a des freins à la transition écologique. D'abord, il y a un frein évident, le frein financier. Aujourd'hui, si vous voulez consommer français, si vous voulez acheter une voiture électrique, si vous voulez rénover votre logement pour le mettre aux normes, tout ça coûte de l'argent. Et malgré les aides, dans le contexte inflationniste qu'on observe depuis 2 ans maintenant, c'est très difficile. Il y a un deuxième frein qui est un frein, psychologique. On est attaché finalement à une certaine qualité de vie. Toutes les générations aujourd'hui qui sont en vie ont grandi dans l'univers de la consommation, de la société consumériste. Il est très difficile de se déprendre comme ça du jour au lendemain d'un certain nombre de comportements parce qu'on est attaché à son confort. Et donc, bien sûr, les gens disent qu'il faut être plus sobre, mais au final, il y en a quand même beaucoup qui nous disent je n'arrive pas, quoi. Je consomme toujours autant. Et puis enfin, il y a un troisième frein, ce qu'on appelle nous l'effet de milieu, c'est-à-dire que là, finalement, vous êtes influencé par ce qui se passe autour de vous. Si, par exemple, vous n'avez pas dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, des gens qui sont déjà dans ces nouveaux comportements, il y a une sorte de un manque de pression finalement, donc vous vous sentez pas vraiment obligé de faire la même chose. Et ça, il faut pas sous-estimer le fait que en France aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont encore loin d'être convaincus et d'adopter tous ces comportements. C'est une des raisons pour lesquelles la transition est lente en fait.
Alors, à quel moment le virage écolo a été pris en France? Est-ce que ça correspond à un événement précis?
Oui, je peux vous répondre précisément là-dessus parce que ça fait une vingtaine d'années justement qu'on suit la prise de conscience par rapport à ces sujets. Si on prend les 25 dernières années, il y a eu aux alentours de 2006-2007 une première prise de conscience qui a mené d'ailleurs à l'époque au Grenelle de l'environnement. Et les activistes écologistes ont été assez actifs à ce moment-là, influents. Et là, les gens ont compris qu'il allait falloir changer son mode de vie. On commençait à parler du réchauffement climatique de façon régulière. Et puis en 2008-2009, il y a eu la crise financière qui a fait que ce sujet est devenu secondaire. Et ça a duré pendant quelques années jusqu'en 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016? C'est les grandes chaleurs. Une année qui, en fait, inaugure le cycle des records. 2016, on annonce qu'on n'a jamais eu des températures aussi élevées dans notre pays, et d'ailleurs dans le monde. Et l'année suivante, de nouveau, des fortes chaleurs. 2020, de nouveau, un record. 2023, un record absolu aujourd'hui. Donc, ce qui se passe maintenant depuis 2016-2017, c'est que les gens, il y a une vingtaine d'années, se disaient « Oui, c'est des sujets importants, mais ils concerneront les générations futures. » Depuis 2016-2017, ils voient bien que ça les concerne eux directement. Et dans les consciences, ça ne cesse d'augmenter. Simplement, en 2022, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflation qui arrive. 2023, c'est aussi l'inflation. Quand on parle d'inflation, c'est qu'on n'a jamais connu une telle durée d'inflation depuis les années 70. Surtout sur les fonctions vitales de la vie, c'est-à-dire se nourrir, se chauffer avec l'électricité, le gaz, et se déplacer avec le carburant. Elle concerne tous les domaines de la vie, mais elle se concentre sur 3 fonctions vitales. À partir de ce moment-là, cette prise de conscience écologique qui, depuis 2016, était amorcée, commence à reculer.
Qu'est-ce qui préoccupe majoritairement les Français aujourd'hui en termes d'environnement et d'écologie? Est-ce que ce sont les mêmes préoccupations pour toutes les générations?
Globalement, oui. Je dirais que les jeunes sont particulièrement soucieux du réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que ils voient bien que c'est quelque chose qui va les concerner, sur lequel ils peuvent se projeter à 10-15 ans. Et ça leur fait peur. Les plus âgés, je dirais, sont plus préoccupés de sujets comme la pollution. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont particulièrement soucieux de leur santé. Et la pollution, ça a un effet direct. Ils sont, on va dire, plus pragmatiques. Les plus âgés vont être beaucoup plus soucieux d'une alimentation plus saine, moins transformée, alors que les plus jeunes, eux, sont moins préoccupé par ça.
Être écolo dans l'esprit des Français, ça signifie quoi finalement?
C'est une bonne question. Alors, chez les jeunes, c'est plutôt positif. L'écologie, c'est une façon de prendre soin de la planète, mais aussi du rapport homme-nature. Il y a ceux qui voient plutôt un engagement politique et qui disent qu'il faut absolument réorienter l'ensemble de nos comportements, de nos modes de vie autour de la question écologique. Donc là, c'est plutôt les jeunes générations. Et les plus âgés vont considérer que l'écologie, c'est avant tout une question de qualité de vie. Et donc, c'est pas une question nécessaire politique, c'est plus une question économique où ce qui est important, c'est favoriser la production locale, les circuits courts, le made in France, et qui ne seront pas dans un combat politique.
Alors, dans le micro-trottoir, on entend par exemple qu'on trie ses déchets, mais qu'on jette son Kleenex usagé dans la poubelle jaune. Forcément, je me pose la question, comment se fait-il qu'on se trompe encore? Est-ce que l'information est suffisante? Et en allant plus loin, avons-nous les bonnes informations?
Il y a énormément d'informations disponibles. Je dirais que les grands principes sont intégrés, mais il y a à la fois pour certains un problème d'information, pour d'autres simplement le fait que entre le principe de plaisir et le principe de responsabilité, bah souvent c'est le principe de plaisir qui l'emporte.
Alors justement, à quoi sont prêts les Français pour améliorer leur environnement, concrètement ?
Les gens sont prêts en parole à le faire. Dans les faits, les gens nous disent qu'il faut interdire les jets privés. Je vous donne cet exemple, il est frappant, mais personne n'utilise les jets privés, donc c'est facile. Il y a globalement beaucoup de choses que les gens disent vouloir faire et qu'ils ne font pas. Et parfois pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien consommer français. Ils adoreraient consommer bio, consommer des produits locaux. Mais en même temps, ils nous disent, soit je n'y ai pas accès parce que près de chez moi, il n'y a pas de producteur local, soit de toute façon, c'est beaucoup trop cher pour moi. Moi, ce que je crains pour l'avenir, c'est mon sentiment, c'est une polarisation très forte entre deux Frances, entre une France qui va plutôt bien, qui a les moyens de la transition écologique, qui va s'équiper, consommer français. Grosso modo, c'est un tiers de la population française. Et c'est plutôt des gens urbains, diplômés, et puis le reste des Français qui, pour partie, vont être extrêmement frustrés parce que la faiblesse de leur pouvoir d'achat, la persistance de l'inflation va faire qu'ils vont être obligés d'être spectateurs de ça. Et donc, vous aurez les spectateurs et les acteurs.
Ouais, donc être écolo, ça veut dire aussi avoir la bourse qui va avec.
On a forgé une expression qui est l'écologie du portefeuille. Parce que, bien sûr, pour consommer bio, pour consommer local, pour consommer français, pour avoir une voiture électrique, pour avoir une pompe à chaleur, il faut de l'argent. En revanche, si vous baissez un petit peu votre chauffage, vous renouvelez moins souvent votre smartphone, vous cuisinez vos restes plutôt que de les jeter, vous consommez des produits à la date de péremption courte, eh bien, vous voyez que s'installent quand même des gestes qui sont écologiquement vertueux, même s'ils sont d'abord et avant tout des gestes d'économie.
Donc c'est de l'écologie facile, ça.
Oui, oui, tout à fait.
Et pourtant, c'est pas toujours fait.
Non, parce que la sobriété, vous connaissez le livre de Pierre Rabhi, La sobriété heureuse. Il y a peu de gens qui, en réalité, au-delà des discours, pensent que la sobriété, c'est le bonheur. On reste quand même, encore une fois, dépendant du consumérisme qui remonte aux années 60. Et par conséquent, se contenter de peu, à une partie de la population qui est dans cet état d'esprit, elle existe, si vous voulez, mais globalement, aujourd'hui, faire partie de la classe moyenne, c'est accéder à un certain statut, c'est avoir telle automobile, c'est pouvoir consommer telle et telle marque. On est dans une transition, justement. Et cette transition, pour moi, elle va prendre plusieurs générations.
Ah, carrément, plusieurs générations. On parle pas de 10 ans, là.
Ah oui, oui, oui.
Mais est-ce qu'on a les moyens d'attendre? C'est ça, surtout.
Ça, c'est un débat. Parce que vous avez, évidemment, ceux qui nous alertent sur l'urgence écologique. Eux, évidemment, ils pensent que dans 10 ans, c'est terminé. Le problème, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous sommes conditionnés par des tas d'habitudes que nous avons prises. Et donc, les choses sont lentes à se mettre en place. Est-ce qu'on a le temps ou pas? Ça, c'est l'avenir qui nous dira. On sait aussi que certains militants en rajoutent pour se faire entendre. C'était d'ailleurs la critique qu'on a fait au collapsologue. Si tout doit s'effondrer, alors autant de rien faire. C'est aussi un sentiment qu'il y a chez certains.
Ça aussi, on l'entend dans le micro-trottoir. On perçoit aussi un sentiment un peu d'impuissance, voire même de fatalisme, alors qu'ils ont conscience quand même de l'urgence. Il tient à quoi ce paradoxe?
Je pense que les discours trop alarmistes sont inefficaces. À force de dire que tout va s'effondrer, on n'a plus que pour quelques années, vous découragez les meilleures intentions du monde, parce qu'au final, d'abord, les choses s'écroulent pas, elles s'écroulent, mais lentement. Je pense que ce qui serait beaucoup plus réaliste, c'est de se penser à un horizon de temps plus long, mais avec les contreparties.
Heureusement, il y a eu des belles initiatives. Je pense notamment au film docu « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Je pense aussi à Colline Serrault, qui est assez engagée, qui a fait aussi des films documentaires sur le sujet en apportant des solutions. Il y a encore des discours positifs et optimistes.
Oui, à partir du moment où vous avez des solutions, pour rassurer les gens. Mais il me semble que vous avez cité le film Demain, c'est pas nécessairement l'actualité de tous les jours. On a plutôt les catastrophes, les effets pervers de la transition écologique qui sont mis à l'agenda de nos démocraties. Et en revanche, les solutions sont peu médiatisées. Alors qu'il y a énormément, vous savez, les start-up à impact, c'est-à-dire celles qui ont pris comme activité principale une des dimensions du développement durable, elles ont augmenté de 30% depuis 2 ans. C'est pour ça qu'il faut laisser du temps au temps aussi. C'est-à-dire, il faut que ces entreprises puissent se développer. Ce qui est dommage, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment médiatisées. Je pense que les solutions scientifiques, les start-up, ou comme dans le film Demain, dans les territoires, tous ces gens qui œuvrent à la transition, on n'en parle pas suffisamment.
Et on parle beaucoup d'éco-anxiété. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Parce que dans votre étude, là, j'ai vu que 74% des Français étaient angoissés par la dégradation de l'environnement. Éco-anxiété, c'est fort comme terme quand même.
Oui, certains disent que c'est la maladie du siècle parce qu'on est maintenant embarqué dans un scénario dont on ne connaît pas la fin, mais dont on se doute bien qu'il ne va pas être très heureux. On dit souvent que c'est une angoisse qui touche les plus jeunes générations, justement parce qu'elles vont vivre elles et leurs enfants dans une société qui sera complètement bouleversée par le dérèglement climatique. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que les plus âgés ont aussi cette angoisse-là, parce que les plus âgés, ils ont des petits-enfants. Puis bon, il y a un sentiment aussi que finalement, par leur mode de vie, ils ont peut-être contribué à une partie du problème. C'est un sujet qui traverse aujourd'hui les générations, qui reflète tout simplement une réalité, c'est que depuis une vingtaine d'années, et ça s'accélère, on est entré dans une époque où se projeter à l'avenir est extrêmement angoissant.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il faut changer un peu le discours dans les médias, les messages politiques. Il faudrait arriver à les rendre un peu plus optimistes.
Il y a deux choses. D'abord, être plus nuancé sur ces sujets. Dans le débat médiatique, vous avez les pros et les anti, on a l'impression que c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Donc je trouve que cette polarisation, elle produit de l'hostilité, du conflit. Or, il faudrait justement pouvoir parler tranquillement de ces sujets, parce que le réchauffement climatique, il y a peu de gens qui le nient désormais, vous voyez, donc se dire qu'est-ce qu'on fait et trouver des compromis. Et puis la deuxième chose, vous avez raison, il faut qu'on puisse mettre en avant davantage des choses positives, montrer qu'il y a des solutions, il y a des gens qui travaillent, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des agriculteurs, il y a partout des choses qui se font. Il faut juste être aussi patient. Moi, je pense qu'une des erreurs du gouvernement actuel, l'an dernier, c'est d'avoir annoncé, c'était en avril 2023, qu'on devrait faire une pause en matière de transition. Parce que là, vous perdez les gens. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision à long terme sur ces sujets-là, qui soit constante dans le temps.
Et pourtant, on y a cru, parce qu'il y a quand même eu l'épisode Covid, confinement, qui a quand même modifié un peu les comportements. On s'est dit tout à coup, oui, il y aura un monde avant et un monde après, quoi. Ça a modifié les comportements quand même en matière d'environnement.
Alors, oui, on a parlé du monde d'après. Je vais vraiment dire la vérité, c'est que c'est terminé. C'est-à-dire que...
J'avais remarqué, hein. Mais je vous pose quand même la question, je me dis que peut-être on peut y croire.
Non, mais c'est clair. Je veux dire, pendant le Covid, on a rêvé du monde d'après, monde plus solidaire, plus social, plus responsable. Ça a duré très peu, en fait. Depuis la sortie du Covid, les chiffres sur tous ces sujets ne cessent de baisser dans nos enquêtes et s'accélèrent aujourd'hui à cause de l'inflation. Ça veut dire qu'en fait, ce qui nous paraît dans le sens de l'histoire, et notamment le fait d'aller vers une transition, vers une société plus responsable, mais qu'en revanche, il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins possibles, et il y a aussi potentiellement des régressions.
Alors, on pourrait croire que les jeunes sont plus écolos. Bah, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Dans la pratique, c'est quand même beaucoup plus nuancé. J'ai compilé pas mal de données. On voit, par exemple, oui, ok, ils favorisent le covoiturage, mais ils prennent beaucoup l'avion. Ils achètent seconde main, mais ils consomment aussi la fast fashion. Et je pense aussi, d'ailleurs, que c'est en partie vrai pour les plus âgés. C'est paradoxe, qui sont pas forcément les mêmes. Donc, les préoccupations environnementales sont différentes, et les gestes écolos aussi. Par quoi ça s'explique, selon vous ?
Ce qui maintenant est assez clair, c'est que, de fait, la jeune génération est très consciente des enjeux écologiques. En revanche, sur les comportements, ça ne suit pas. Pourquoi ? Parce que je distinguerai les effets d'âge et les effets de génération. L'effet de génération, c'est le fait que les jeunes d'aujourd'hui sont en effet conscients qu'ils appartiennent à une génération qui va devoir changer ses comportements. Et puis, il y a l'effet d'âge. L'effet d'âge, c'est qu'à 20 ans, vous êtes plutôt dans un moment où vous avez envie de vous amuser, de sortir, de voyager, de vous faire plaisir. Et par conséquent, il y a aujourd'hui un antagonisme entre l'effet d'âge et l'effet de génération, mais qui n'est que temporaire. Le marqueur de leur génération, c'est l'écologie. Donc dans quelques années, notamment quand ils deviendront parents, vous allez voir qu'ils adopteront des comportements beaucoup plus écologiques que au même âge, leurs parents l'avaient fait. Et alors, le paradoxe, c'est effectivement, les plus âgés sont moins tonitruants sur l'écologie, mais dans les faits, ils le sont plus. Mais là aussi, s'il y a un effet d'âge, c'est que quand vous avancez en âge, vous vous recentrez sur ce qui est essentiel pour vous, la santé, la famille. Et donc, le paradoxe, c'est que les jeunes sont écologistes en parole et ils le sont moins en comportement. Et les plus âgés, eux, semblent peu écologistes en parole, mais dans les actes, ils le sont plus que les jeunes.
Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une génération plus écolo qu'une autre, finalement.
C'est difficile de parler globalement des Français. Il faudrait plutôt parler des générations, des étapes de vie, des milieux sociaux et des territoires. Parce que dans certains territoires, il est peut-être plus facile de s'approvisionner en produits locaux que dans d'autres, de prendre les bus, les tramways. Et donc, il y a des inégalités et des différences qui fait que sur l'écologie aussi, peut-être un progrès serait de pas penser global, mais de penser territoire et de penser local.
Est-ce qu'on peut dire que les quinquas sont devenus des bons élèves en matière d'écologie ?
Une partie d'entre eux, oui. Ils sont en train de, contrairement, si vous voulez, à la caricature du boomer qui n'en fait qu'à sa tête, qu'à son plaisir, etc., on sent quand même qu'ils participent aussi du mouvement général de prise de conscience.
Elles se complètent finalement presque, ces générations en matière d'écologie.
Oui, elles se complètent et parfois elles ne se comprennent pas. C'est le paradoxe. Au fond, les seniors sont des écologistes qui s'ignorent et les jeunes sont un petit peu contradictoires. Mais moi, je suis pas inquiet. Je pense que ce marqueur générationnel, il est fait pour durer. Et vous verrez, dans quelques années, ils seront plus raccord avec leurs convictions qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Alors, pour finir sur un point positif, dans votre étude, vous définissez aussi des conditions pour réussir la transition écologique. C'est le moment de porter un petit message d'espoir. Par quoi ça passe?
Alors, ça passe par trois types de solutions. Il y a d'abord, dans le contexte actuel, des solutions financières, c'est-à-dire faire en sorte que la consommation dite responsable, l'accès aux biens responsables, soit accessible par une large partie des Français. Donc, il faut aider financièrement les particuliers. Je pense en particulier en matière de rénovation thermique. Il existe déjà des dispositifs, mais c'est fondamental que d'aider les Français. Et puis surtout, maintenir dans les enseignes des produits qui sont accessibles. Le deuxième type de solution, c'est des solutions qui vont s'attaquer au manque d'informations, montrer des exemples concrets, montrer qu'il y a des modèles pour changer son comportement, et puis surtout développer des infrastructures, c'est-à-dire continuer à développer les transports en commun, qu'il y ait des investissements qui permettent d'aller vers des modes de mobilité plus responsables. Et puis enfin, le dernier type de solution, c'est surtout de réconcilier le principe de plaisir et le principe de responsabilité. Faire en sorte que les solutions écologiques ne soient pas perçues comme une contrainte, mais plutôt comme une amélioration de la qualité de vie. Et ça, c'est aussi un enjeu majeur, c'est-à-dire parler de l'écologie de façon positive.
Mmh. Je vous remercie beaucoup, Rémi Audeguiri, pour cet éclairage, même s'il y a encore du boulot, les choses avancent quand même. Alors, on va essayer de rester concentré. Merci encore et à bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt, Virginie.
Au revoir.
Au revoir.
Conclusion, ça va être long, mais c'est possible.
Exactement, et chaque geste compte. Tu peux d'ailleurs télécharger le guide « Comment agir pour ma planète » sur le site de l'ADEME. Ce sera déjà un bon début. Allez, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour parler de vos gestes écolos.
C'est obligé.
C'est mieux, oui. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca.
T'es sûr qu'ils sont encore là?
Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire.
Ouais, et surtout un max d'étoiles.
Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas, y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet.
C'est tout ? Tu dis pas quoi ?
Non, je veux pas spoiler non plus. Allez, ciao !